mais aussi de discuter de Shell, de comment ils continuent à vouloir polluer la planète et à vouloir polluer en faisant des profits, bien évidemment. Donc voilà, une jolie petite réussite contre deux entreprises de la part de Greenpeace.
Alors, je vais parler un petit peu d'environnement pour terminer ce qu'il y a eu info, continuer dans l'environnement. Avec le premier truc drôle un peu, c'est sur la transition énergétique. On vous a parlé de cette loi là qui est portée par la ministre de l'écologie. Loi ridicule qui va pas loin, qui sert à rien, etc. Mais est quand on fait même une loi ridicule qui va pas loin, qui révolutionne rien, qui changera rien, ben ça énerve quand même la droite. Donc du coup, ceux qui disent ah c'est petite, il y a pas de différence entre la droite et la gauche, et ben dans quelques domaines il y a une micro différence et la micro différence elle est suffisamment importante pour énerver l'UMP, puisque l'UMP fait du blocage à l'Assemblée en balançant des amendements à tour de bras. Donc du coup, ce premier article hein, de la loi sur la transition énergétique qui fixe les économies que l'État s'engage à tout faire pour faire baisser la consommation énergétique de la France et baisser le nucléaire, et ben des centaines d'amendements sont déposés et c'est bloqué demain. Donc enfin, c'était bloqué toute la journée parce qu'aujourd'hui ils discutaient d'autres choses. Cette nuit à 1h du matin, ils ont arrêté sans étudier tous les amendements. Voilà, blocage administratif ridicule de l'UMP, qui rappelle donc qu'ils sont pour la consommation d'énergie, la destruction de la planète et pro-nucléaire, parce que c'est le nucléaire qui les a le plus embêtés. Et la bêtise des députés. Alors on sait que souvent les députés sont incompétents dans les domaines dans lesquels ils ont à s'exprimer. On les a vus sur l'informatique être ridicules. Hein. Je pense qu'ils n'avaient jamais touché un ordinateur avec autre chose que Windows de leur vie. Tu leur as parlé des rootkits tout à l'heure, mais un député, la majorité, ils ne savent pas ce que c'est qu'un rootkit. Je vous parle même pas de la culture. Hein. On avait vu ce député habillé en rouge, là, parler de groupe de rock. Et là, les mecs, ils le regardaient avec des gros yeux. Ils n'avaient jamais entendu parler des groupes. Et là, c'est bien la même chose, parce que de baisser un peu le nucléaire, qui est dans la loi, c'est un peu le nucléaire, hein, c'est, d'après eux, irréaliste. Je vois pas ce qui est irréaliste. Et ça pourrait avoir un impact énorme, terrible, pour reprendre leur mot, sur l'économie. Alors qu'on sait que développer les énergies renouvelables, ça a un impact énorme sur l'économie. Bah oui, positif, puisque ça crée beaucoup plus d'emplois que le nucléaire, qui en crée assez peu en proportion. Donc voilà, c'était le ridicule des députés UMP. Sinon, sur le nucléaire, ceux qui connaissent la centrale de Golfech, bah, vous pouvez être rassurés, en ce moment, elle est arrêtée, parce que les deux cœurs, ils sont plantés. Alors, il y en a un qui était en arrêt prévu de maintenance, qui devait durer 2 mois, mais hier, un arrêt d'urgence sur l'autre réacteur. Pas plus d'infos que ça, ils disent que c'est mineur, mais ils n'ont pas redémarré. Hein. À savoir que quand un réacteur s'arrête comme ça, ça coûte entre 300 et 500 000 euros par jour à EDF, ce qui rappelle que vaut mieux avoir une éolienne en panne et qu'une centrale nucléaire. Il vaut mieux avoir donc plein de petites sources qu'une seule grosse source, parce que quand ça casse, que ça tombe en panne ou qu'il y a un problème autre, eh ben, on s'en sort beaucoup mieux, mais ça, c'est un autre débat que l'UMP ne comprend pas non plus. Et puis pour terminer, le lobby pétrolier, tu parlais de Shell tout à l'heure, ben, quelquefois il gagne quand même. Donc c'est au niveau de l'Union européenne que ça s'est passé. Il y avait un texte, une directive qui était en négociation depuis plusieurs années pour qualifier certains hydrocarbures de hautement polluants. Alors, sur le coup, on se dit c'est bête, le pétrole c'est toujours polluant. Non, quand c'est en schiste bitumineux, donc vous savez, c'est notamment au Canada où c'est extrait ce pétrole est extrait de sable, donc après il faut trier, c'est grosso modo 20 à 30% de plus d'émissions de CO2 que déjà du pétrole qui est pourri. Donc il y avait une idée de faire une loi qui, pour pénaliser, pour empêcher, pour dire aux fournisseurs de pétrole, pas plus de X% de ces pétroles ultra polluants. Bon, le lobbying des pétroliers a marché, la France a joué le jeu, puisque la France a essayé de faire repousser plein de fois la loi, donc ça va être décidé, et du coup il y a une nouvelle directive qui est ultra light, hein, puisqu'il n'y aura plus qu'une demande d'indication moyenne par compagnie de dire la quantité de CO2 émis pour l'extraction pour leur pétrole. Voilà, du coup les schistes bitumineux, les sables bitumineux, tous ces trucs horribles ont gagné. Shell et toutes les compagnies pétrolières du monde ont gagné. Il reste 3 minutes, même pas, 2 minutes 30. On va faire le petit agenda de ce Canu Info avant de laisser la place à la Little Cuillère. Tu as des... Non. Alors, Gaza, on n'oublie pas. Rassemblement samedi, on sera le 11 octobre, 15h, place de la République. Vous savez, c'est rue de la République, c'est la place où il y a les jets d'eau. Donc dans Lyon, pour dire que oui, on n'oublie pas ce qui s'est passé à Gaza, il faut faire pression sur Israël pour que ça se reproduise pas, voir qui paye, mais ça, c'est pas gagné du tout. Alors toujours samedi, j'ai plein de choses samedi. Là, on va aller à la Griffe, donc rue Sébastien Griffe, dans le 7e, avec un livre et un auteur qui vient parler du livre, qui s'appelle « Ni silence, ni pardon, l'inceste de point, un viol institué ». Donc c'est Jeanne Cordelier et Mélusine Vertelune, elles sont deux. Elles viendront à 15h ce samedi 11 octobre pour parler de ce livre et des agressions sexuelles. Quand on lit le truc, c'est horriblement déprimant. Hein. Bon, elles viendront parler de ce sujet qui est un sujet très très dur et pas drôle du tout. Et puis par contre, une fois que vous avez subi le débat, vous pouvez être plus heureux puisque c'est le pot de rentrée de la Griffe, donc vous êtes au même endroit à 18h30. On boit des coups à la Griffe, on discute entre copains. Le pot de rentrée de la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe, dans le 7e. Et puis il va commencer très bientôt la semaine contre les violences policières et le racisme d'État. On a parlé de l'affaire aux États-Unis tout à l'heure, il y en a aussi chez nous. Donc ça commencera le 14 octobre, donc la semaine prochaine, mardi, sur Radio Canu à 20h jusqu'à 21h, il y a une émission sur les violences policières dans le tremplin. Le 15 octobre, il y a un débat à 19h rue Sébastien Griffe sur la guerre d'Algérie. Le 17 octobre, bon, vous savez, c'est la date de cette manif en 62, en 61, où les manifestants, notamment pas mal de gens d'Afrique du Nord à Paris, sont fait massacrer par la police et le préfet Papon. Donc voilà, il y aura à Lyon une manif organisée de nuit, donc à 19h, départ du marché couvert des États-Unis dans le 8e. Il nous reste 30 secondes, je finis avec la semaine des violences policières. Contre les violences policières. Donc ensuite, il y a une projection de octobre à Paris, toujours le 17 octobre à 21h, c'est au CSAO à Raga. Le 18 octobre, au CSAO à Raga, 12h, 15h, on sera le samedi, repas de soutien à la Caisse de solidarité qui aide les gens qui subissent la répression des forces de répression, des flics. Et puis le 19 octobre, c'est la fin de cette semaine avec un atelier de préparation à la garde à vue. C'est à la Lutine, 91 rue Montesquieu, on sera le dimanche 19 octobre.
Je vous rappelle qu'on a toujours une campagne pour que Radio Canu puisse se loger, une campagne de dons, voilà, on appelle à votre soutien. Pour l'instant, on a la cheminée, la porte et la boîte aux lettres. Il nous manque le mur, les quatre murs et le toit, c'est-à-dire l'essentiel. Donc, on compte sur vous. Bah ouais, vous qui nous écoutez fréquemment. On vous aime. Ah bah ouais. Allez, on vous laisse. Et puis, bah, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et on vous laisse donc avec la petite cuillère tout de suite.
Voilà, il y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corban. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son évasion.
Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers, émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Radio Canu 102.2. Ah, on a une petite musique qui démarre. Donc vous écoutez La Petite Cuillère, l'émission anticarcérale, en solidarité avec toutes les personnes détenues et leurs proches. Donc on vous rappelle que cette émission est en alternance, pas exactement une semaine sur deux, mais plus ou moins, avec l'émission Papillon, qui est l'émission anticarcérale de Saint-Étienne, sur Radio Dio, qu'on rediffuse en direct, donc un jeudi sur deux à peu près. On peut commencer par vous rappeler que vous pouvez nous appeler pour soit nous laisser des messages pour vos proches qui sont en détention à Corba, le PM de Mézieux, Saint-Quentin-Falavier, pas Villefranche malheureusement, mais voilà, les tôles un peu alentour et tous les lieux d'incarcération. Donc pour nous laisser ces messages, vous avez deux solutions. Vous pouvez soit appeler sur le portable et laisser un message sur le portable que nous on récupère après. Donc le numéro du portable, c'est le 07 81 35 93 71. Je répète, le 07 81 35 93 71. Ou alors nous appeler directement. Donc là, vous pouvez nous avoir en direct. On peut soit enregistrer un message sur le même principe, soit vous pouvez aussi discuter avec nous ou voilà, nous raconter les trucs qui se passent à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur si vous êtes proche de détenus. Enfin, c'est possible de discuter avec nous à ce moment-là. Et ça, ça se fait lors de permanence. Donc ces permanences, c'est juste avant les émissions de la petite cuillère. C'est donc de 17h30 à 19h, pour nous laisser le temps quand même de monter les messages après. Donc de 17h30 à 19h, la prochaine fois c'est donc le jeudi 23. Et là, pour ça, il faut nous appeler au 04 78 29 26 00. Je répète, 04 78 29 26 00. Voilà, tout ça, c'est pour nous joindre par téléphone, nous laisser des messages que nous, on rediffuse dans les émissions. Et vous pouvez aussi communiquer avec nous par voie postale. Donc, vous pouvez nous écrire par le biais de l'atelier d'écriture. Donc, il faut écrire à l'atelier d'écriture. 91 rue Montesquieu, 69007 Lyon. Atelier d'écriture, 91 rue Montesquieu, 69007 Lyon. Donc là, vous pouvez, pareil, nous écrire soit pour qu'on lise des messages en direct, soit pour nous informer de ce qui se passe pour vous, soit pour aussi parce que vous avez envie d'écrire à des gens et qu'on vous réponde. Et donc, si vous écrivez, on vous répondra. Voilà un petit peu pour nous joindre. Et puis sinon, on va commencer par vous faire un petit sommaire de cette émission. Alors, pas de gros sujets aujourd'hui, beaucoup de petites choses comme ça. Dans l'ordre, on va d'abord vous raconter l'histoire d'un compost au centre de détention de Neuvik. Ensuite, on parlera d'une prison vide en Suisse. D'un rapport de l'OIP sur les parloirs de Fresnes, donc la petite rubrique Harlem Shake Tatoul, qui est donc la rubrique où on rapporte un petit peu les choses qui mettent en péril la bonne marche des prisons.
De petites surprises.
On vous parlera d'un film, la rubrique La Photomaton. Et la rubrique Le bruit qui court, la rubrique La lime à ongles.
Pour les petites évasions.
Et puis pour finir, donc les messages de proches aux personnes détenues.
On commence avec ces histoires de compost.
Tout à fait. Commençons avec ces histoires de compost.
Neuvik, je ne sais pas trop où c'est, mais ils ont des idées hyper bien, on dirait.
Et oui, parce que c'est dans toute cette idée. Alors, ça va avec l'idée globale que le développement durable, c'est super, l'écologie, blablabla, que politiquement, tout va bien si on est écolo. En gros, ça permet quand même de faire passer plein de trucs. Le tri sélectif, par exemple, qui permet de faire du travail gratuit pour Bouygues ou Vinci qui par ailleurs construisent des prisons. Donc tous ces trucs là où on nous berne un peu en nous faisant croire que par nos petits gestes écolos on va changer le monde alors qu'en fait c'est toujours les mêmes qui en profitent. Et c'est un peu ça au centre de détention de Neuvik. En fait, ils se sont rendus compte que il y avait beaucoup de gaspillage parce que quand même les détenus cantinent et mangent pas forcément les repas qui sont servis. Donc après les repas, faut les jeter parce que
c'est dégueulasse.
Donc beaucoup de gaspillage. Donc ils ont décidé de faire un compost. pour pouvoir moins gaspiller. Et voilà, donc il y a eu l'inauguration cette semaine de cette petite cabane à compost.
Mais avec le compost, ils vont composter les bouffes Sodexo de merde données aux détenus, mais ça va faire des insecticides, ça va pas faire des engrais.
Écoute, c'est l'écologie. Et c'est le développement durable, c'est comme ça. Et voilà, et du coup, ben, c'est quand même assez cynique parce que, enfin voilà, il y a cette idée de oh, il y a beaucoup de gaspillage, il faut pas gaspiller, on va composter et on va pas se demander ou se dire que il y a un petit problème s'il y a autant de gaspillage, si les détenus cantinent, c'est pas par plaisir pour gaspiller, pour le gaspillage et tout ça.
Pour dépenser des thunes qu'ils ont pas.
Pour dépenser des thunes et acheter, encore une fois, on le rappelle, de la bouffe hyper chère, où c'est toujours les mêmes grosses entreprises qui se font un max de thunes dessus. Mais c'est bien parce que la bouffe est dégueulasse, en fait. Donc, ben, au lieu de changer des trucs comme ça et de faire que la bouffe soit moins dégueulasse et qu'il y ait moins de gaspillage, on préfère faire un peu de compost. Parce que, voilà, donc ils étaient très fiers, ils ont fait une petite...
Mais peut-être qu'ils pourront revendre le compost.
Non, mais c'est ça, ils vont, voilà, une petite cérémonie. Bon, voilà, on voulait vous dire ça pour montrer. Donc, dans cette tôle aussi, il faut noter que ils ont quand même des panneaux solaires et des poubelles de tri. Enfin, bref, c'est un exemple pour le développement durable. Et voilà, toujours sans prendre en compte ce qui se passe pour les détenus, quoi.
Bien sûr.
Et Neuvik, pour info, c'est vers Dijon, c'est la prison de Dijon.
Voilà.
Ah oui, merci pour l'info.
C'est pour ça qu'on est plusieurs, on n'a pas toutes les mêmes compétences, on a un peu meilleur en géographie. Voilà, on passe à la suite.
La suite, c'est la Suisse, parce qu'à Palaisieux, il y a une prison toute neuve pour mineurs, et elles ont un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de détenus. Enfin, il y a...
Alors, peut-être nous situer.
Palaisieux, en Suisse, vous voyez Lausanne, ben c'est à l'est de Lausanne. Enfin, c'est comme à la limite entre la Suisse francophone et la Suisse germanophone là. Et du coup, Palaisieux, c'est comme au milieu de la Suisse là. Et puis il y a une bonne idée il y a une dizaine d'années, c'était de construire une prison pour mineurs là. Elle a été inaugurée en mai, le 19 mai. Et une tôle comme l'État les aime, flambante neuve, 36 places pour des mineurs spécialement aménagées, une médiathèque, des salles de cours, tout ça, une propagande très bien pensée. Mais à l'heure actuelle, il n'y a que 12 cellules qui ont été ouvertes. Je mets le « ouvertes » entre guillemets, ça se voit pas, mais on ouvre des cellules dans une prison pour y mettre des gens. Ouais, et puis après, on les referme derrière. Et encore sur ces 12 cellules, donc déjà, il y a 36 places. Hein, 12 cellules, ça fait un tiers. Et la plupart du temps, il n'y a que la moitié de ce tiers-là qui est occupé. Il n'y en a que 6. Alors du coup, la direction de la tôle, elle s'inquiète. Elle voulait faire pression sur les juges pour prononcer des peines d'enfermement, elle voulait faire pression sur les autres tôles de la région pour lui transférer... Non, je rigole. Mais voilà, elle s'inquiète vraiment. Et du coup, il y a des citations qui font froid dans le dos. Parce qu'il faut rappeler que la construction, elle a été prise il y a 10 ans. Et depuis, la politique pénale en Suisse, elle a pas mal changé. Et il y a un peu moins d'enfermement des mineurs de ce temps-là. Du coup, il y a le président du tribunal pour enfants du coin qui avoue « Alors, il y a 10 ans, on y croyait. La réalité nous donne tort. » Malheureusement, il parle pas de la révolution. Il parle de l'occupation de la nouvelle tôle. Mais l'évolution de la politique pénale, je disais, c'est assez impressionnant parce qu'en 2002, dans le canton de Vaud, en Suisse, il y avait 221 détentions préventives qui ont été prononcées pour des mineurs. Ça fait voilà presque une par jour. En 2013, l'année dernière, il n'y en a eu que 35. Ce qui explique pourquoi il y a personne qui va occuper ces cellules-là. Quoi. Et pourtant, une loi en 2007 a prévu en Suisse des peines de 4 ans d'enfermement pour les mineurs. Avant, ça n'existait pas. C'était 2 ans maximum. Et peines perdues, même avec ça, en fait, ça arrive très rarement. Et la plupart des peines, c'est entre 2 jours et 6 mois. Ce qui fait dire au même président du tribunal pour enfants, ça ne suffit pas pour remplir une prison.
Mais aussi parce qu'en Suisse, je sais pas si c'est comme ça aussi pour les mineurs, mais t'as le choix entre deux peines, soit tu fais des jours amende où tu travailles pour la communauté, ou tu payes pour la communauté, ou soit tu vas en prison. Du coup, souvent aussi ça joue dans le nombre de personnes incarcérées ou quoi.
Sûrement, il y a ça, et puis aussi tous les centres fermés qui sont pas décrits comme des tôles, mais qui sont des tôles en vrai, et puis qui préfèrent mettre les enfants là-dedans plutôt que dans des trucs style EPM. Voilà pour Palaisieux, la Suisse.
Et on revient du coup en France, à Fresnes, parce qu'il y avait un article dans Libération qui citait l'Observatoire international des prisons, l'OIP, qui est quand même une source assez fiable sur pas mal d'enquêtes, parce qu'ils peuvent rentrer dans les tôles souvent, enfin bref, voilà, c'est une source d'infos. Et qui là relevait le fait que les parloirs à Fresnes sont vraiment pourris, on va dire pourris, voilà.
N'ayons pas peur des mots.
Voilà, j'étais un peu, j'osais pas comme ça, mais en fait si, voilà, c'est dit. Ils font un rapport là-dessus. Déjà sur la tôle de Fresnes, c'est une très grosse tôle qui est très ancienne en plus, puisqu'elle a été construite en 1898, donc autant dire plus de 100 ans.
Et merci, Napoléon, c'était pas.
Ouais, bon. Du coup, il y a 1404 places dans cette tôle et 2368 personnes incarcérées. Donc
ça fait pas mal.
Voilà, un taux de remplissage assez important. Et voilà. Et du coup, bon, ces parloirs qui sont tout pourris, c'est donc parce que d'une part c'est sale, voilà, c'est dégueulasse. Ça fait 2 mètres carrés. Enfin, c'est des parloirs tout petits. Il n'y a pas du tout d'intimité. Il y a des vitres. Les matons, tout va tout le temps. Il y a aussi des problèmes à propos de la durée, puisque c'est notamment le samedi, les parloirs durent que 30 minutes, alors que d'autres jours, ils durent 45 minutes pour faire passer plus de monde. Mais le samedi, c'est aussi souvent les personnes, elles peuvent aller visiter, rendre visite à leurs proches que le week-end. Du coup, si tu vas pour juste un parloir de 30 minutes, ça fait vraiment court. Y a un dispositif de sécurité, comme on peut l'imaginer, comme on l'entend souvent, mais bref, c'est toujours important de le redire, où on passe plusieurs fouilles, plusieurs portiques, on vérifie 23 fois ton identité, etc.
Et à l'arrivée, ça se trouve, sur un parloir de 30 minutes, c'est arrivé à voir la personne 15-20 minutes entre les fouilles et les merdes.
Voilà. Et il y a aussi des murets de séparation, en fait, dans les parloirs, qui séparent la personne qui visite de la personne visitée. Et ça, c'est interdit depuis 30 ans qu'il y ait des séparations physiques des murets. Donc voilà.
Ils sont très forts pour construire des murs, mais alors pour détruire ceux qui sont illégaux, ça prend du temps.
Et oui, ils aiment moins. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de parloirs familiaux. Du coup, c'est parloirs aménagés où on peut passer un peu plus de temps, avoir plus d'intimité avec ses proches, etc. Donc voilà, c'était encore une fois une petite observation de l'OIP sur les parloirs et le non-respect de la loi, finalement, par ceux qui entendent punir ceux qui n'ont pas respecté avant. Voilà. Bon, on va écouter une petite musique.
Allez, c'est parti pour une petite musique. Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 FM et c'est La Petite Cuillère, l'émission anticarcérale sur Radio Canu le jeudi soir de 20h à 21h tous les 15 jours, enfin à peu près. Maintenant, on va écouter... on va nous écouter raconter les petits Harlem Shake Tattle. Alors Harlem Shake Tattle, on a nommé cette rubrique comme ça. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, dans la prison de Montmédy, dans la Meuse, il y avait des prisonniers qui avaient fait un petit Harlem Shake avec des vestes de maton, en fumant des gros joints, etc., etc., qui s'étaient filmés, qu'ils avaient postés sur le net. Du coup, le Harlem Shake Tattle, c'est tous les petits morceaux de dérangement que peuvent créer les prisonniers et prisonnières dans les tôles depuis l'intérieur. Alors, commençons avec les Harlem Shake Tattle.
Et on commence par une drôle d'histoire de... c'était un détenu mineur le 1er octobre. Il est dans la prison de Quievrechain. C'est un établissement pénitentiaire pour mineurs dans le nord de la France, je crois.
Ouais.
Ouais, spécialiste géographie, oui.
Et confirme.
Il avait faim à ce moment-là et il a commandé un kebab, quoi, à livrer. Et les matons, ils ont un peu halluciné, surtout qu'à ce moment-là, ils faisaient un rassemblement devant la tôle, parce qu'ils étaient encore pas contents pour un truc ou un autre. Alors quand ils ont vu la mobilette avec le kebab arriver, ils lui ont dit de rebrousser chemin, ce qui est un peu triste, quoi. Mais big up aux détenus, quand même.
Si ça avait marché, franchement, ça aurait été bien pour lui, hein, il aurait été content.
Ah, ça aurait été sympa. L'autre petite nouvelle, c'est moins dû directement aux détenus eux-mêmes, mais plus aux intempéries, parce que la prison de Draguignan, qui est fermée depuis un peu plus de 4 ans, depuis juin 2010, va être détruite. En fait, elle avait été fermée suite à des grosses inondations qu'il y avait eu et qui avaient fait que tous les détenus avaient dû monter dans les étages. Enfin, c'était assez trash comme histoire et comme épisode. Et ils vont commencer à la détruire. Elle va pas. Voilà, c'est fini pour elle.
Harlem Shake très forte à Tôle.
Très forte à Tôle.
Bon, Harlem Shake au bulldozer.
Ouais, bon, ouais. La petite mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a la construction d'un autre centre pénitentiaire, quoi. Mais bon, celle-là, faut le dire des fois quand il y en a qui se font détruire.
On continue avec un petit film, c'est ça ?
Tout à fait, fait. Alors, je profite de la sortie DVD du film pour en parler, parce qu'on n'en avait pas parlé avant. Alors là, ça nous a dit que ce film existait. En fait, c'est le film « Ceuta 12 prison ». Qui est un documentaire sur cette petite enclave qu'est Ceuta, qui est donc une ville autonome espagnole sur la côte nord du Maroc, sur le détroit de Gibraltar, là, et puis il y a l'Espagne à 15 km, il y a la mer pendant 15 km, et hop, de l'autre côté, il y a l'Espagne. Et du coup c'est un point de passage, ou en tout cas d'essai de passage pour beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique, même enfin plus au sud de l'Afrique, et qui remontent en espérant atteindre l'espace Schengen et l'Europe. Et qui essaye de passer, parce que du coup c'est une enclave, parce que c'est un petit bout de terre qui avance sur la mer, et il y a donc c'est tout entouré par la mer, et le côté de la terre, et c'est tout entouré par les grillages sur 8 km. Donc c'est pas facile d'y rentrer, et assez régulièrement, on en parle ici aussi, hein, dans les rubriques évasion, il y a des essais collectifs de passer ces grillages, où les personnes y vont à plusieurs centaines et essayent de passer. Ça marche un peu des fois, où il y en a qui arrivent à passer autrement, par la mer, etc. Mais en fait, une fois dedans, c'est pas fini, parce que c'est pas parce qu'on est rentré que d'un coup on va. Enfin, oui, on est arrivé en Europe administrative, quoi, mais on est coincé sur un tout petit bout de terre.
Avec
un centre de rétention qui est le centre d'accueil temporaire, le CETI, qui est un centre de rétention, quoi. Et du coup, c'est un peu une petite. une petite ville prison où les migrants ils sont retenus et puis ils espèrent avoir un moment un visa pour aller sur Schengen, enfin dans l'espace Schengen de l'autre côté de la mer, quoi. Que ça arrive très très rarement et puis ils se débrouillent un petit peu en attendant pour survivre dans ce tout petit bout de terre. Non, j'ai cru que mon collègue voulait intervenir. Mais
désolé.
Et voilà. Et du coup, c'est ce documentaire. Il interroge plusieurs personnes qui vivent là-bas. Il les suit un petit peu pour montrer ce que c'est cette douce prison. Donc, on va écouter la bande-annonce. C'est parti.
Je suis venu dans le pays des Blancs pour me chercher où. C'est pas ma faute si je suis noir. J'ai l'intention de devenir quelqu'un.
Quand on était au Maroc, on pensait que ici c'était l'Eldorado. Mais une fois que nous sommes entrés, on a vu que c'est le contraire.
Nouveau, on me dit voilà l'Espagne.
Du coup, tu as envie d'aller
du sommet de la colline. J'ai du coup envie de plonger et de m'envoler, de me retrouver en Espagne sans savoir que c'est l'enfer.
Put us in the city. How much time we have to live in the city?
Maximum, don't have limits.
Vraiment, les lumières sont déjà.
Dieu fait les choses. Tu vois la mer qui nous bloque.
Voilà, donc ce documentaire s'appelle Ceuta 12 prisons et vous pouvez le trouver donc en DVD, mais aussi il est trouvable sur internet, je pense. Voilà.
Alors on va enchaîner avec l'autre rubrique, la photomaton, parce que c'est la faute à qui ? C'est bien sûr la photomaton. Clic clac, on t'a eu en flagrant délit.
Alors, oui, c'est moi qui commence, pardon. Ouais. C'est pour rapporter que hier, oui, le 8 octobre, il y avait une grève des matons à l'EPM de Lavore. L'EPM, c'est établissement pénitentiaire pour mineurs. Et donc, les matons faisaient grève, mais surtout bloquaient la prison dès 6h30 pour protester contre des réductions budgétaires et notamment la suppression d'un poste, le poste de dispo, qui est le poste de remplacement, en gros. Pour rappel, c'est juste que à chaque fois qu'il y a un mouvement comme ça et que les matons bloquent leur tôle, ça a pour conséquence d'annuler en fait toutes les personnes qui sont censées se rendre à l'intérieur, c'est-à-dire toutes les visites, tous les parloirs et aussi toutes les activités. Il y a plus aucun mouvement possible, donc voilà, c'est des journées encore plus difficiles pour les personnes qui sont à l'intérieur.
Oui, c'est vrai. Et on continue avec Montauban, où le 28 septembre, c'est une matone qui a eu la mauvaise idée de refuser un parloir à une femme venue visiter un détenu dans ce samedi après-midi. Et du coup, quand la matane a fini sa journée, il y a deux femmes qui lui sont tombées dessus à la sortie de la tôle et qui l'ont copieusement frappée. La matane a donc fini son service aux urgences.
Oh, la photomaton.
Et le 1er octobre, un maton s'est interposé lors d'un échange de drogue dans la tôle de Valence. Il aurait peut-être mieux fait de s'abstenir car il a aussi fini sa journée avec deux côtes cassées.
Et puis le 7 octobre, avant-hier, eh ben, il y avait aussi un blocage à la prison de Varennes-le-Grand pour dénoncer la mauvaise gestion du nouveau directeur. C'est même pas la faute au maton, c'est la faute au directeur. Voilà.
Et ouais. On parle encore de blocage de tôle. Alors, la faute au maton, il s'est pris un coup de tête dans la prison de Perpignan et on sait pas trop pourquoi, mais ses collègues.
Il avait laissé sa tête traîner
une fois de plus. Ses collègues avec un très fort esprit de meute ont bloqué la tôle le lendemain 2 octobre.
Et ouais, ensuite on va à Arles où l'adjoint en chef de la maison centrale a une drôle d'idée. Là c'est pas la photo de Dirlo mais c'est la photo sous Dirlo a priori ou quelque chose comme ça. Donc il a eu une drôle d'idée, mettre son logement en sous-location sur Le Bon Coin. Logement de fonction situé à l'intérieur de la tôle. Super
exotique.
75€ la nuit, 450€ la semaine. Ben, il y avait de quoi bien compléter son salaire. Et puis si vous voulez vous faire une petite nuit à la prison de Arles pour voir comment c'est funky et génial, vous pouvez payer 75€ et aller en tant que dans l'appartement du sous-dirlo. C'est tout pour le photomaton.
C'est tout pour le photomaton. On va écouter un petit peu de musique maintenant sous la forme de 666.
On se demande bien pourquoi on l'écoute régulièrement dans cette émission en ce moment. Allez, 666, c'est parce que c'est super, bien sûr. C'est la rubrique Le bruit qui court et la première est, se passe le mois dernier. On vous parlait de la tôle de Châteaudun où des détenus étaient montés sur les toits. Et ben rebelote, vendredi 26 septembre, des détenus ont tenté de faire tomber les grillages de la cour de promenade. Mais ils n'y sont pas arrivés, malheureusement. Quelques jours plus tard, un détenu a mis le feu à son matelas dans cette même tôle.
Le bruit qui court aussi parle de la maison d'arrêt de Segdin dans le Nord. Où lundi 29 septembre, il y a une détenue de 15 ans qui s'est retrouvée enfermée là, alors qu'il n'y a pas de quartier mineur, il n'y a que des majeurs qui sont enfermés à Segdin. Elle était donc toute seule, et depuis l'ouverture de l'établissement pénitentiaire pour mineurs à côté à Quiévrechain, dont on parlait à propos des kebabs, bah, il n'y a plus de quartier mineur à Segdin. Du coup, elle était enfermée seule, qu'elle fasse sa promenade toute seule et tout ça. Et ça, par contre, elle l'a un peu mal pris, elle l'a refusé. Réclamant d'aller avec les majeurs au moins faire sa promenade. Les matones ont refusé, se sont pris quelques coups. La direction interrégionale des services pénitentiaires, en gros l'administration pénitentiaire, elle refuse de donner toute explication sur cette situation d'une détenue de 15 ans enfermée seule parmi les majeurs.
Du coup, pour l'instant, on ne sait pas si...
On pense qu'elle a été transférée assez rapidement après. Surtout que c'est sorti dans les médias le lendemain, quoi.
Le 1er octobre dernier, un détenu s'est suicidé dans la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Il aurait demandé à être placé en isolement une semaine auparavant et s'est pendu quelques heures après une visite au service médico-psychologique de la prison.
On continue avec une brève du début du mois. L'administration pénitentiaire a été condamnée à verser 1 500 € de dommages et intérêts à un détenu. Une meilleure nouvelle. En effet, il y a 2 ans, l'administration pénitentiaire lui avait refusé une permission pour aller à l'enterrement de son fils, faute d'escorte. Le détenu avait donc porté plainte et il a obtenu gain de cause. C'est déjà pas mal.
On continue avec des nouvelles macabres où le 8 octobre, un détenu s'est suicidé aussi dans sa cellule de la tôle de Valenciennes. Il était rentré un mois auparavant et devait faire 4 mois de détention. Et voilà, il n'y est pas arrivé.
Et on, du coup, une petite pensée à toutes les familles et tous les proches des personnes qui se suicident ou qui meurent pour une raison ou pour une autre à l'intérieur.
On passe à la rubrique suivante, la rubrique lime à ongles. C'est pas du tout ça, je me suis trompée de CD, excusez-moi. Lime à ongles.
Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La lime à ongles, une rubrique sur toutes les évasions.
On commence cette rubrique de la lime à ongles. Le 28 septembre, un détenu de la prison de Rennes, hospitalisé dans un hôpital de la ville, s'est évadé dans la nuit en pyjama. L'escapade a été de courte durée. 2 heures plus tard, les flics le mettaient en garde à vue.
Oh.
Oh. C'est un peu mieux la prochaine. C'est jeudi 2 octobre, au palais de justice de Colmar. Un prévenu est condamné à 2 ans de prison. Ni une ni deux, il court à une fenêtre, saute et disparaît dans la nature. Efficace, surtout que c'est la 2e fois en 2 ans qu'un détenu s'échappe de ce tribunal, de la même salle. On ne sait pas si c'est la même fenêtre. On devrait discrètement déposer un matelas à l'extérieur pour amortir la chute du prochain. Hein.
Le lendemain, une 20aine de détenus se sont évadés de la prison de Gao au Mali après avoir dérobé des armes aux gardiens. On leur souhaite bonne route.
Et la suivante est à la maison d'arrêt de Reims, où un détenu a creusé sa cellule avec un pied de table, simple et efficace, jusqu'à obtenir un trou de 90 cm de diamètre. Mais il a changé d'avis et a demandé à être changé de cellule. Ce n'est qu'une fois que le détenu a changé de cellule que les matons ont découvert la volonté d'évasion.
Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est bien. Au début du mois d'octobre, un détenu a coupé son bracelet électronique. Il s'est donc retrouvé en situation d'évasion. Il n'avait pourtant plus que quelques jours à tirer, mais c'était déjà trop insupportable. Du coup, au tribunal, le juge lui a dit qu'il aurait mieux fait de retourner à la tôle. Genre, qui c'est qui va faire ça? J'en ai marre de mon bracelet, je vais retourner à la tôle, quoi. Et le juge, il n'a pas été tendre, du coup, le détenu évadé a pris 3 mois ferme pour l'évasion, 3 mois pour la dégradation du bracelet, c'est cher payé.
Le dimanche 5 octobre, des détenus ont tenté de s'évader de la maison d'arrêt de Tambacounda au Sénégal. Ils n'ont malheureusement pas réussi à prendre l'arme d'un maton qui a tué un détenu et blessé un second. Une mutinerie a donc éclaté. C'est la 2e fois dans la même semaine qu'un maton assassine un détenu dans ce même district. Donc on vous rappelle au Sénégal. Une semaine auparavant, c'était dans la tôle de Kédougou qu'un détenu était tué par balle par un maton. Du coup, plusieurs milliers de personnes ont organisé une manifestation le lendemain de la morgue au ministère de la Justice pour protester contre les violences des matons. La mobilisation a obtenu l'ouverture d'une enquête, l'autopsie du corps du détenu assassiné et l'arrestation du maton qui a tiré.
Et lundi 6 octobre, un autre trou a été découvert dans une cellule de la tôle d'Arras cette fois. Il contenait tout un outillage, ciseaux à bois, pierre à aiguiser, lame de scie à métaux, couteau, téléphone et une barre de fer. Malheureusement, le projet s'est arrêté quand les matons ont découvert la planque.
Oh, oh.
Dommage.
Et puis avant-hier, c'est un tribunal aussi, mais à Strasbourg, qui a vu un détenu s'évader. Cette fois, il n'a même pas attendu sa peine, ni même d'entrer au tribunal. En fait, sa famille était venue à l'entrée du tribunal, qui est en travaux. Du coup, les gens ne sont pas rentrés directement dans les sous-sols. La voiture de flic s'arrête à l'entrée avec un portique. Et là, avec la famille autour, ça a pas mal déconcerté l'escorte. Et le détenu, il a profité de cette déconcertation, il a pris les jambes à son cou et s'est barré.
Genre, hein, je comprends pas ce qui se passe. Oh merde, il est parti en courant.
Exactement.
Voilà pour la rubrique Lima Ongles et toutes ces évasions. Vu qu'on n'est pas trop en retard, peut-être qu'on peut se permettre un petit peu de lecture.
Et oui, parce que dans les projets de l'émission aussi, on avait envie de vous lire des morceaux de livres qui parlent de tôle, qui parlent de personnes qui racontent leur vie quand elles étaient en tôle. Et cette fois-ci, j'ai sélectionné des petits morceaux du début de Papillon, qui est un livre écrit par Henri Charrière, qui lui, dans les années 30, il s'est fait enfermer et placé au bagne à Cayenne, du coup, au dur, aux travaux forcés, quoi. Alors... c'est parti, je vais vous raconter un petit peu le début. Premier cahier, le chemin de la pourriture, les assises. La gifle a été si forte que je ne m'en suis relevée qu'au bout de 13 ans. En effet, ce n'était pas une baffe ordinaire et pour me la balancer, il s'était mis à beaucoup. Dans quelques instants, je serai accusée de meurtre. Mon avocat, maître Raymond Hubert, est venu me saluer. « Il n'y a aucune preuve sérieuse contre vous, j'ai confiance, nous serons acquittés. » Je souris de ce « nous serons ». On dirait que lui aussi, Maître Hubert, comparé aux assises, comme inculpé, et que s'il y a condamnation, il devra, lui aussi, la subir. À 11h du soir, la partie d'échecs est terminée. Mes défenseurs sont échecs et mat, et moi, qui suis innocent, je suis condamné. La société française, représentée par l'avocat général Pradel, vient d'éliminer pour la vie un jeune homme de 25 ans. Et pas de rabais, s'il vous plaît, le plat copieux m'est servi par la voix sans timbre du président Bevin. Accusé, levez-vous. Je me lève. Un silence total règne dans la salle. Les respirations sont suspendues, mon cœur bat légèrement plus vite. Les jurés me regardent ou baissent la tête. Ils ont l'air honteux. Accusé, les jurés ayant répondu oui à toutes les questions sauf une, celle de la préméditation, vous êtes condamné à subir une peine de travaux forcés à perpétuité. Avez-vous quelque chose à dire ? Je n'ai pas bronché, mon attitude est normale, je serre seulement un peu plus fort la barre du box où je suis appuyée. Monsieur le Président, oui, j'ai à dire que je suis vraiment innocent et victime d'une machination policière. Du coin des femmes élégantes, invitées de marque assises derrière la cour, me parvient un murmure. Sans crier, je leur dis « Silence les femmes à perles qui venaient ici goûter des émotions malsaines. La farce est jouée. Un meurtre a été heureusement solutionné par votre police et votre justice, alors vous devez être satisfaite, non ? Garde, dit le président, emmenez le condamné. Avant de disparaître, j'entends une voix qui crie « T'en fais pas, mon homme, j'irai te chercher là-bas ». C'est ma brave et noble nénette qui hurle son amour. Les hommes du milieu qui sont dans la salle applaudissent. Ils savent à quoi s'en tenir, eux, sur ce meurtre, et me manifestent ainsi qu'ils sont fiers que je ne sois pas mise à table et n'ai dénoncé personne. De retour dans la petite salle où nous étions avant les débats, le gendarme me passe les menottes et l'un d'eux s'attache à moi par une courte chaîne. Mon poignet droit lié à son poignet gauche. Pas un mot. Je demande une cigarette. L'adjudant m'en tend une et me l'allume. Chaque fois que je la retire ou la mets à ma bouche, le gendarme doit lever le bras ou le baisser pour accompagner mon mouvement. Je fume debout à peu près les trois quarts de la cigarette. Personne ne souffle un mot. C'est moi qui, regardant l'adjudant, lui dis « Allez, en route !» Après avoir descendu les escaliers, escorté par une douzaine de gendarmes, j'arrive dans la cour intérieure du palais. Le panier à salade qui nous attend est là. Il n'est pas cellulaire. On s'assied sur des bancs, une dizaine à peu près. L'adjudant dit « À la conciergerie !»
la conciergerie. Quand nous arrivons au dernier château de Marie-Antoinette, les gendarmes remettent au gardien-chef qui signe un papier, la décharge. Ils s'en vont sans rien dire, mais avant, surprise, l'adjudant me serre mes deux mains emmenottées. Le gardien-chef me demande « Combien ils t'ont foutu ?» Perpétuité. « C'est pas vrai !» Il regarde les gendarmes et comprend que c'est la vérité. Ce geôlier de 50 ans, qui a vu tant de choses et qui connaît très bien mon affaire, a pour moi cette bonne parole. « Ah, les salauds ! Mais ils sont fous !» Doucement, il m'enlève les menottes et il a la gentillesse de m'accompagner lui-même à une cellule capitonnée spécialement aménagée pour les condamnés à mort, les fous, les très dangereux ou les travaux forcés. « Allez, courage, papillon, me dit-il, en fermant la porte sur moi. On va t'envoyer certaines de tes affaires et le manger que tu as dans ton autre cellule. Courage !»« Merci, chef. Croyez-moi, j'ai du courage. Et j'espère que la perpétuité leur restera dans le gosier. » Bon. La première des choses à faire, prendre contact avec des hommes déjà condamnés, susceptibles dans l'avenir d'être des compagnons d'évasion. Je choisis un Marseillais, deux gars, au coiffeur. Je le verrai sûrement, il y va tous les jours s'y faire raser. Je demande à y aller. Effectivement, quand j'arrive, je le vois le nez au mur. Je l'aperçois au moment même où il fait passer subrepticement un autre avant lui pour avoir à attendre plus longtemps son tour. Je me mets directement à côté de lui, en écartant un autre. Je lui glisse rapidement. « Alors, de gars, comment ça va ?»« Ça va, papy, j'ai 15 ans. Et toi ?»« On m'a dit que t'avais salé. »« Ouais, j'ai perpète. Tu feras cassation ?»« Non, ce qu'il faut, c'est bien manger et faire de la culture physique. Reste fort, de gars. »« Car certainement, on aura besoin d'avoir de bons muscles. T'es chargé ?»« Ouais, j'ai 10 sacs, en livres sterling. Et toi ?»« Non. » »« Un bon conseil, charge-toi vite. Ton avocat, c'est Hubert. Il est con, jamais il te rentrera le plan. » Envoie ta femme avec le plan chargé chez Dante. Qu'elle le remette à Dominique le Riche et je te garantis qu'il te parviendra. Chut, le gaffe nous regarde. Alors, on en profite pour bavarder ? Oh, rien de grave, répond Degas. Il me dit qu'il est malade. Qu'est-ce qu'il a ? Une indigestion d'assises ? Et le gros bidon de gaffe éclate de rire. C'est ça la vie, le chemin de la pourriture, j'y suis déjà. On rit aux éclats en faisant des plaisanteries sur un gosse de 25 ans condamné pour toute son existence. Alors peut-être qu'on va s'arrêter là pour cette semaine et on va passer maintenant au message pour les prisonniers.
Peut-être du coup on rappelle que vous pouvez vous aussi nous laisser des messages ou nous appeler pour nous dire des choses.
Tout
alors vous pouvez appeler sur le portable et laisser un message sur le répondeur au 07 81 35 93 71 07 81 35 93 71 ou nous appeler et avoir directement quelqu'un au bout du fil au 04 78 29 26 00 04 78 29 26 00 pendant les permanences. Donc la prochaine, c'est le jeudi 23 de 17h30 à 19h. Et sinon, vous pouvez nous écrire à l'atelier d'écriture 91 rue Montesquieu 69007 Lyon. Voilà. Bon, on passe les messages et puis on vous dira juste des petites infos juste après.
Excellent. Allez, c'est parti pour les messages. Hop.
Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. L'autodétermination des peuples, des langues, est à défendre, à soutenir, à combattre pour. Nous laissons la parole aux familles de prisonniers et prisonnières basques. Nous parlons de ce qui se passe là-bas au Pays Basque. De ce qui se passe ici dans les tôles de Corba, Villefranche, Roanne. Parce que les luttes n'ont pas de frontières ni de murs. Askatasuna. Liberté et solidarité.
Hola, Yone. ¿Qué tal? Bonjour, Yone. Pedro Tapia, de Lyon. Te sorprenderá al escucharme, ¿no? Nunca se me había ocurrido que yo también podía dejar tu mensaje por esta radio Canut, que conozco bien porque tengo amigos que trabajan ahí y hacen una emisión el sábado en la mañana. Pero eso no es lo importante. Lo importante es enviarte un saludo. Hoy día estuve con tu padre y, bueno, quiero decirte, primero, que estamos bien. Tu mamá te debe haber dicho que estamos por mudarnos de casa. El 30 nos vamos de aquí y a lo mejor tu mamá alcanza a venir una vez más y conocer el nuevo piso antes de que a lo mejor también te cambien a ti. Lo único que deseo, John, es que tu estadía, que sea aquí o en otro lado, por los meses que quedan, sea lo mejor posible. Ya sé que son palabras medias estúpidas en las condiciones que son las tuyas, pero igual, yo pienso que aunque esté uno adentro, puede hacer las cosas de tal manera de que esa estadía sea mejor o peor. Y yo sé que con el ánimo y la fuerza, la energía, la vitalidad y la convicción que son los tuyos, no tendrás problemas para aclimatarte en otro lado si te cambian, o para soportar los meses que quedan, los pocos, espero, antes de que te manden al otro lado de los Pirineos. Bueno, ya tendrás la ocasión por ahí con alguien de decirme si escuchaste este mensaje. Dale un saludo grande a los amigos que están adentro, si alguna vez por ahí te cruzas con ellos. Y para ti, bueno, todos mis deseos de que estés bien y que sigas con la energía, la fuerza que has tenido hasta ahora. Te mando un besote grandote, un abrazo más grande todavía, y bueno, en 15 días más volveré a mandarte un mensaje, ¿ok? Que estés bien, cariño, hasta pronto.
A ver, arracha León, compañeros. Soy el padre de Yone. Estuve de visita ayer en el León Corbás y de vuelta al caserío sigo con las tareas agroganaderas. Ahora más agro, ya que el rebaño está en el monte hasta noviembre.